France Inter, le 18-20.
Encore un procès hors norme cette semaine. Le procès de Jawed Bendaoud s'est ouvert mercredi devant le tribunal correctionnel de Paris. Procès du logeur de deux personnes impliquées dans les attentats du 13 novembre 2015. Procès hors norme car des centaines de personnes se sont constituées partie civile dans ce dossier. Des victimes des attentats mais aussi la ville de Saint-Denis où a eu lieu l'assaut du raid. Il a fallu aménager le palais de justice de Paris pour accueillir toutes les parties civiles et leurs représentants. Trois salles en tout avec retransmission de l'audience sur écran géant. Dans de telles conditions, une question, quelle place justement pour les parties civiles? Que doivent-elles attendre d'un tel procès? Quelle stratégie pour leurs avocats, tellement nombreux eux aussi, que certains s'interrogent sur la nécessité ou non de se regrouper dans un tel cas? Des réflexions sont en cours au sein du monde judiciaire. Alors ce soir, on ouvre le débat, au téléphone sonne, d'autant que ce procès n'est ni le premier ni le dernier à voir arriver dans une enceinte judiciaire autant de monde. On se souvient du procès de la catastrophe d'AZF, de celui de la marée noire de l'Erika, de certaines catastrophes aériennes ou ferroviaires, mais aussi sanitaires, comme le scandale des prothèses PIP. Et tout cela n'est qu'un début, il y aura sans doute un jour un procès dans le scandale du Mediator avec déjà des milliers de parties civiles. Pour parler de tout cela avec nous ce soir, Benjamin de Paris, le président du tribunal de grande instance du Havre, bonsoir à vous. Je précise que vous avez présidé il y a quelques années le procès de la catastrophe d'Allinges en Haute-Savoie, collision entre un car scolaire et un TER. Vous avez également dirigé une session de l'École nationale de la magistrature consacrée précisément à la place des victimes dans le procès pénal. Avec nous également maître Aurélie Soria, bonsoir.
Bonsoir.
Vous représentez certaines des victimes des attentats du 13 novembre. Partie civile, donc au procès de Jawed Bendaoud. Vous êtes également membre d'un groupe de travail qui a été créé par une centaine d'avocats qui représentent les parties civiles dans le dossier du 13 novembre. Toujours à nos côtés, Françoise Rudetsky, fondatrice en 86 de l'association SOS Attentat. Rebonsoir Françoise Rudetsky.
Bonsoir.
Et Charlotte Piret du service Enquête Justice de la rédaction de France Inter qui suit précisément le procès Bendaoud.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le standard de France Inter pour retrouver Philippe qui nous appelle de Douvaines. C'est bien ça, Philippe? Bonsoir Philippe, êtes-vous en ligne? Philippe?
Allô, allô?
Est-ce que... Voilà, on vous reçoit cette fois-ci. Philippe, bonsoir, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Merci, donc juste, merci pour vos émissions. Juste dire, j'habite pas loin de d'Allinges, justement, donc où il y a eu le...
En Haute-Savoie.
En Haute-Savoie. Juste une question. On parle beaucoup de partie civile, de se porter partie civile, et moi j'aurais voulu qu'on nous explique clairement que veut dire se porter partie civile.
Eh ben, c'est une excellente question qui va nous permettre d'introduire notre sujet. Merci, merci Philippe pour cette question. Je me tourne peut-être vers Benjamin de Paris qui a...
Ben merci, c'est un heureux hasard que d'avoir une question d'un auditeur de Haute-Savoie. Ça me permet de saluer la Haute-Savoie où j'ai passé 5 ans comme président du tribunal de Thonon-les-Bains. Pour répondre à la question de Philippe, se constituer partie civile, c'est un statut qui permet... Puisqu'en fait, la victime n'existe pas juridiquement en droit, c'est la partie civile. Donc, c'est un statut qui va permettre d'accès au dossier. Il faut distinguer d'abord l'instruction, la phase d'instruction et la phase de procès. Dans la phase d'instruction, la partie civile va pouvoir avoir accès au dossier, faire des demandes d'actes, un peu comme le mise en examen, mais vu de l'autre côté, si on peut dire. Et puis, dans la phase d'un procès, se constituer partie civile, c'est indiquer qu'on va... se déclarer comme victime et souhaiter solliciter une indemnisation, une réparation. Mais on n'est pas obligé non plus, on peut se constituer partie civile au seul soutien de l'action publique. Et dans ce cas, on vient se joindre au ministère public et on n'est pas obligé de demander quelque chose.
Alors peut-être que, quand même, pour replacer les choses dans leur contexte, un procès pénal, c'est avant tout quoi? C'est juger une personne qui a commis un acte a priori répréhensible. C'est ça le procès pénal. C'est d'abord, est-ce qu'on prononce une peine ou pas? C'est ça?
Oui, naturellement, c'est quand même la fonction première d'un procès. Hein. C'est innocenter ou condamner et sanctionner. Mais le lien entre la sanction et la réparation, il est très ancien.
Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément un lien entre le préjudice subi par les victimes et la peine qui sera prononcée?
Naturellement, il y a un lien, puisque comparaître en justice, ça veut dire paraître avec. Donc comment voulez-vous paraître s'il n'y a pas la personne qui a subi l'action qui a été commise? Donc la présence de la victime, elle est non seulement nécessaire, mais elle est indispensable pour qu'il y ait ce débat contradictoire. La question après, c'est de savoir, et c'est là que les professionnels en débattent, c'est jusqu'à quel point d'équilibre.
Maître Aurélie Soria, sur cette notion de partie civile, quel est votre regard ?
Oui, c'est une question qui anime beaucoup notre profession et les professions judiciaires. C'est savoir si la victime, aujourd'hui surtout, ne prend pas trop de place dans le procès pénal. Vous le disiez, Monsieur le Président, je pense que nous devons, dans un procès, avoir évidemment, centrer nos regards évidemment sur les mises en cause, sur les prévenus ou les accusés, selon qu'on soit devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, et que la place de la victime, elle est particulière. Il faut pouvoir l'entendre, bien entendu, mais le procès, ce n'est pas un endroit où la victime peut crier vengeance et doit crier vengeance. Et donc la place est compliquée, même pour un avocat de partie civile. Et je suis de celles qui pensent, et je pense que nous avons, enfin plusieurs avocats ont des idées un peu différentes, mais je pense que nous devons rester à notre place de victime.
Ne pas réclamer une peine, par exemple.
Jamais.
Ça s'entend
plaidé,
parfois. Hein.
Oui, bien sûr, mais je n'ai jamais réclamé une peine et plaidé sur le quantum de la peine, parce que je pense que ce n'est pas mon travail. En revanche, il m'est arrivé de représenter des intérêts de personnes victimes d'une infraction, et c'était devant une cour d'assises où l'avocat général, à mon sens, n'avait pas fait le travail. Et donc il m'est arrivé à des moments donnés, lorsque je n'ai pas un avocat général qui a une connaissance suffisante du dossier, d'être obligé, et ce n'est pas dans mon intention première, mais d'être obligé de venir un peu le secourir pour essayer de porter l'accusation. Mais ce n'est pas notre travail au départ.
Très bien, on reviendra avec vous, évidemment, sur le procès en cours au tribunal correctionnel de Paris, mais je fais un premier tour de table. Françoise Rudetsky, vous avez eu un rôle très important, puisque je pense que c'est grâce à votre action que des associations peuvent se porter partie civile dans certains procès.
Oui, c'est l'article 2.9 du Code de procédure pénale. Avant, les associations de délits contre les femmes ou les enfants pouvaient se porter partie civile. Et j'avais souhaité, sur les traces du juge Boulouk qui instruisait les attentats de 86, que les associations puissent se porter partie civile dans la perspective justement d'attentats mettant en péril de nombreuses victimes, mettant en cause de nombreuses victimes. Mais j'ai toujours rappelé que c'est le prévenu qui est au centre du procès. Ça, il faut jamais perdre ça de vue. Ça fait partie de nos valeurs démocratiques. Mais il faut trouver une juste place pour la victime, la partie civile, qui vient parce que pendant quelques jours, elle va pouvoir exprimer sa parole. Et la parole d'une victime dans une enceinte judiciaire, à mon sens, et je sais que beaucoup de magistrats ou d'avocats ne sont pas d'accord, mais ça fait partie de la reconstruction d'une victime, que la voix de la victime puisse se faire entendre à sa juste place, sans crier vengeance, en simplement exprimant sa douleur, sa souffrance, sa volonté de se reconstruire. Les associations sont là en appui, ne doivent pas se mettre en avant. Elles doivent représenter celles et ceux qui n'ont pas la force de venir s'exprimer à l'audience. Beaucoup de victimes me disaient « Vous porterez notre voix au sein de la cour d'assises ». Mais beaucoup de victimes, et je l'ai toujours soutenue, ont la force de venir. Il faut qu'elles viennent témoigner. Mais on est là dans un procès correctionnel, ce qui est beaucoup plus compliqué. Par contre, en cour d'assises, là, elles ont et elles trouvent toute leur place. C'est plus facile, mais c'est quand on est face à des procès de masse, ça va être très compliqué.
Alors, on va parler effectivement des...
Et Maître Hollot avait, par exemple, représenté 313 parties civiles dans les attentats de 95. Mais on avait trouvé une juste place. Mais là, on parle de procès hors normes.
On parle de procès hors normes. Charlotte Piret.
C'est vrai que cette place, elle n'a pas toujours été celle qu'elles ont aujourd'hui. C'est le résultat d'un long processus où progressivement, d'ailleurs, on dit les parties civiles, au départ, elles n'avaient pas leur place dans le procès pénal. Et progressivement, l'histoire a fait qu'on leur a attribué une place à l'instruction, on l'a dit. Et puis, le fait de pouvoir poser des questions, de pouvoir, pour leurs avocats, de pouvoir plaider, de pouvoir être entendus, etc. C'est le résultat d'un long processus judiciaire pour arriver à ce à quoi on est arrivé aujourd'hui.
Alors, effectivement, on va revenir sur tout ça, mais on va prendre un nouvel appel au standard du téléphone sonne. Loïc nous appelle de Chaumont. Bonsoir Loïc.
Bonsoir messieurs, dames. Merci de prendre ma question. Alors, donc j'ai bien compris justement en vous écoutant l'intérêt d'une partie, de la partie civile, de l'importance on va dire. Par contre, concernant le procès qui nous occupe, moi la question est plus technique. Quand je vois justement, il y a 500 parties civiles qui sont représentées par 80 avocats. Et face à ça, il y a le prévenu qui est représenté par, je suppose, un avocat. Je me demandais justement un petit peu les moyens du prévenu, mais j'imagine que c'est un avocat commis d'office.
On va vous répondre.
Et dans, voilà. Et dans ce cas précis, je me posais la question de l'équité du procès. Et est-ce que il n'y avait pas un risque de céder à une forme de vindicte populaire? Et justement, Madame Synthèse, vous citiez tout à l'heure...
C'est Madame Servagent le vendredi, mais c'est pas un souci.
vous citiez tout à l'heure le procès à venir du médiateur. Et il y aura énormément de parties civiles. À l'inverse, le prévenu, a priori, ce sera Servier, qui n'a pas du tout les mêmes moyens que le prévenu qui nous occupe en ce moment sur le procès là. Et justement, moi, je me posais la question du risque d'iniquité de ce procès.
Eh bien, on va vous répondre, Loïc. Qui souhaite répondre en premier? Peut-être Benjamin de Paris?
Oui, peut-être sur ce point, dire à notre auditeur que ce qu'il pointe, finalement, c'est le risque du procès déséquilibré. Et effectivement, ce risque existe. Mais par rapport à ça, on n'est pas démunis. Et c'est évidemment le rôle du président d'audience de rétablir ce qu'on appelle le procès équitable, c'est-à-dire un débat qui soit contradictoire et équilibré. Oui. Avec tout un tas de techniques d'audience qu'on a maintenant, un certain recul, on sait ce qu'il faut faire et puis ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer un procès par un défilé de victimes. On commence le procès en campant le décor de ce qu'on reproche au prévenu à l'accusé. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. C'est aussi rétablir le contradictoire, c'est faire des fenêtres pour la défense, après plusieurs auditions de victimes, régulièrement des fenêtres de contradictoire pour que la défense puisse s'exprimer. Accorder la même compréhension, la même humanité, le même temps de parole, évidemment, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'impartialité. Et ça, c'est le rôle du président d'audience qui ne doit pas démissionner des débats. Et c'est toute la difficulté, parce qu'évidemment, c'est un procès, c'est dans ce cas de figure-là, c'est déséquilibré. Si on a un certain nombre d'avocats d'un côté et de l'autre. Attention, ça peut être dans le sens inverse aussi.
Oui. Hein,
dans les procès de ce qu'on appelle en matière de viol les tournantes, vous avez tout l'inverse. Vous pouvez avoir une seule victime face à 15 prévenus et 15 avocats. Donc attention, le sujet est complexe. Et il peut être inversé, les arguments peuvent être inversés.
Maître Aurélie Soria, vous comprenez les interrogations de Loïc de Chaumont quand il dit, voilà, il y a 500 parties civiles, 80 avocats face à...
Mais je crois que ça a été la raison première, ça a été dans notre réflexion première, lorsque des clients sont venus nous voir, victimes de ces attentats, on s'est dit, un petit groupe au départ, qu'on n'était pas en capacité de les assister, de les représenter, d'abord parce que le procès, l'instruction déjà allait être très importante et que nous étions des petits cabinets individuels et nous n'aurions pas forcément les moyens de les assister très efficacement. Et c'est la raison pour laquelle on s'est réunis. On s'est réunis par des groupes de travail. Alors ça, je ne vais pas développer parce que c'est essentiellement sur les attentats du 13 novembre. Mais lorsqu'il y a eu une disjonction concernant le procès Ben Daoud, une partie de nos clients ont souhaité se constituer partie civile. D'autres ne l'ont pas souhaité. Moi, sur mes 8 clients, j'en ai 2 qui ont souhaité se constituer partie civile. Et nous avons tout de suite dit que nous n'étions pas en capacité d'aller seuls dans ce procès, que nous devions reconstituer ce groupe, enfin qui est déjà constitué, et de trouver justement notre juste place. Il est bien évident qu'il n'est pas possible à 80 avocats de plaider à l'issue de l'audience, il n'est pas possible à 80 avocats de poser des questions, il n'est pas possible à 80 avocats de faire entendre la voix de leurs clients. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous réunir en groupe. Et je trouve que cette audience, ce qui est un peu surprenant dans cette audience, à vrai dire, c'est que nous avons une seule chambre où sont réunis tous les avocats. C'est-à-dire qu'il y a les trois prévenus, des journalistes en face et 80 avocats dans la salle comme un public en réalité de ce procès-là. Et c'est un petit peu particulier, c'est la première fois que j'assiste à cela et que les victimes ne sont pas dans la salle d'audience. Elles sont dans une salle à côté. C'est étonnant. Mais je trouve, ayant suivi les débats depuis 3 jours, que pour l'instant, l'équilibre est sauvegardé, que la présidente tient très bien son audience.
Isabelle
Prévost-Desprez, que la présidente de la 16e tient très bien son audience. Et que, alors, j'ai pas bien compris la question sur le fait de savoir si c'était des avocats commis d'office. Je ne sais pas comment ils sont rémunérés. Je sais que
Charlotte Piret, vous savez, vous qui suivez. En l'occurrence, pour je ne sais pas s'ils ont demandé l'aide juridictionnelle ou pas. Je vous avoue que cette question m'a échappé. Après, effectivement, mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir de grands avocats, c'est si c'est ce que vous entendez l'auditeur. On a vu le procès Mera.
La défense est très compétente.
Et ce sont des avocats tout à fait compétents. Il n'y a pas de doute là-dessus. Effectivement, visuellement, juste pour reprendre l'image qui s'y passe, dans la salle d'audience, c'est assez impressionnant. On voit 4 avocats de la défense et 80 de la partie civile. Voilà, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un procès déséquilibré pour autant.
Jean, reviens juste à vous, Maître Sorien, un instant. Vous dites, on est 80, on s'est organisé. Ça veut dire que vous avez fait quoi? Vous avez décidé de vous répartir les rôles?
C'est-à-dire que dès le départ, dès le 13 novembre, et dès qu'on a eu nos clients, on a décidé de se réunir, et c'est-à-dire d'étudier ensemble l'instruction. Alors, on se partageait les cotes parce qu'on faisait un inventaire, d'aller voir les juges d'instruction pour pouvoir avoir une communication de la procédure et qu'on ne vienne pas un avocat par un avocat tous les jours leur demander une copie de cette procédure. Donc, je veux dire, de manière pragmatique, on a trouvé utile de se regrouper. Et puis, par la suite, on a fait des groupes de travail sur les lieux des attentats. Et là, pour le procès Ben Daoud, oui, on s'est réparti la tâche. Une dizaine d'avocats ont travaillé à la rédaction des conclusions et nous avons déposé, les 80 avocats qui participent à ce groupe ont déposé les mêmes conclusions en développant sur le préjudice particulier de leurs clients. Mais on s'est réparti les tâches, on va se répartir les tâches concernant les plaidoiries, concernant les questions aux prévenus, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas, chacun de notre côté, c'était contre-productif dans l'intérêt de nos clients. Je veux dire, c'est utile pour la juridiction, je crois, mais c'est aussi utile, évidemment, pour notre client, parce que 80 voix d'avocats, c'est inaudible.
Et puis ça peut être contre-productif quand les avocats des parties civiles sont complètement sur des longueurs d'onde différentes. Charlotte Piret, je vous pose la question à propos du procès Abdelkader Mera.
Oui, effectivement.
C'est clairement passé comme ça.
L'image renvoyée, effectivement, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui par les avocats de partie civile dans leur ensemble, n'a pas été très digne et n'a pas participé à la dignité des débats au sein du procès d'Abdelkader Mera, ce qui était à la fois regrettable puisque les victimes directes, elles-mêmes, au contraire, renvoyaient une image d'une dignité absolue pendant l'ensemble qu'a duré ce procès. Et effectivement, je pense que dans ce groupe de travail, il y a cette chose intéressante qu'à un moment donné, de se dire de toute façon, on ne peut pas exister et l'avocat n'est pas là pour exister. Lui à titre individuel. Il y a quelque chose qui a été d'un préjudice massif pour les victimes, pour la société, pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont autant suivis d'ailleurs ces procès-là. Et à un moment donné, il y a aussi une réponse qui peut être apportée de manière collective, sans pour autant oublier l'individu.
Françoise Rudetsky, peut-être le rôle des associations par rapport à ce qu'ont fait ces avocats qui se sont regroupés.
Alors, les associations peuvent effectivement venir en appui du choix des parties civiles. Certaines prennent leur propre avocat, mais moi je pense que quand un avocat a déjà plusieurs victimes, elles doivent aussi représenter l'association, on ne doit pas venir en surplus. Mais faut rappeler, suite à la question de ce monsieur, que les terroristes, les grands criminels, bénéficient toujours de l'aide des plus grands ténors du barreau. Parce que pour un avocat pénaliste, quand même, le bâton de maréchal, c'est de défendre les grands criminels. Et que, au sein d'SOS Attentat, j'avais eu beaucoup de mal à trouver de très bons pénalistes. J'en ai trouvé, Maître Spinner, Maître Hollot. Mais c'est à peu près les seuls qui ont accepté de défendre la cause des victimes. Donc, et pour l'aide juridictionnelle, donc, évidemment, les prévenus ont, certains choisissent ses avocats et c'est pris en charge par l'aide juridictionnelle, ils n'ont pas à débourser quoi que ce soit. Certains ne choisissent pas, on leur commet un avocat d'office, mais j'avais obtenu également l'aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes du terrorisme. Et c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, je me pose des questions, avec autant d'avocats, puisqu'ils sont à peu près certains tous, d'avoir une prise en charge de leurs honoraires, puisqu'ils sont payés par l'aide juridictionnelle et qu'il faut avoir beaucoup de victimes pour rentrer dans les frais de travail. Mais s'il fallait que les victimes payent des avocats, je pense qu'on n'aurait pas sans une centaine d'avocats.
Maître Aurélie,
non, juste pour revenir là-dessus, oui, en effet, devant la cour d'assises et à l'instruction criminelle, nous avons l'aide juridictionnelle qui
mais
est
là
quand
aussi
même... Non,
là aussi.
Alors là,
si.
Non, mais je vous assure, on a regardé les textes. On a une aide juridictionnelle. On a 8 UV pour toute la durée du procès, qu'elle dure un jour ou 3 semaines. Côté partie civile, mais je veux dire, en général, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que on s'est rendu compte, moi, j'avoue que j'avais jamais été confrontée à ce problème-là, mais que on vous alloue 160 euros pour défendre une personne partie civile dans un dossier, que le dossier dure, enfin, le procès dure une journée ou 3 semaines, donc ça pose vraiment des problèmes financiers. Alors, pour revenir sur ce que vous dites, madame, je ne crois pas, je crois que beaucoup d'avocats représentent des victimes parce qu'en réalité, beaucoup d'avocats, trentenaires, quarantenaires, ont connu beaucoup de personnes qui avaient été victimes de ces attentats. Ce qui a fait qu'en réalité, les victimes sont venues vers des gens qu'ils connaissaient. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, on est extrêmement nombreux et pas sur le financement et sur la prise en charge de nos honoraires qui, pour l'instant, sont assez ridicules, sauf si des protections juridiques, sauf pour quelques personnes qui ont des protections juridiques. Mais vraiment, c'est plutôt comme ça que le groupe s'est formé. Vraiment, on a tous eu des connaissances qui avaient été victimes de ces attentats.
Benjamin de Paris, c'est après on repart au standard.
Oui, dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure sur les risques, évidemment, d'un procès déséquilibré, les risques de pression, d'instrumentalisation. Je crois qu'il y a deux mots-clés, c'est le procès équitable, encore une fois, puis l'égalité des armes. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut ne pas accepter. Il ne faut pas accepter les pressions de bougies, de mausolées, de photos, d'applaudissements. Voilà, il faut assurer un confort matériel technique au prévenu ou à l'accusé, à l'identique, et même peut-être sans doute un peu plus, parce que c'est son procès. Et voilà comment on rétablit le contradictoire. On établit aussi un planning prévisionnel d'audience avec les avocats des parties civiles et de la défense, ce qui fait que de façon un peu collaborative et participative, on va arriver à un point d'équilibre. Si on vous dit non, ne faites pas 6 journées d'audition de victimes à la suite, on peut l'entendre. Voilà, donc il faut à la fois assurer la possibilité du récit, hein. Je voulais citer tout à l'heure la phrase bien connue du philosophe Paul Ricoeur, les victimes, elles viennent demander plus récit que vengeance. Paul Ricoeur, il a été entendu comme témoin au procès du sang contaminé. Je crois que c'est là que, véritablement, l'histoire contemporaine de la victime en justice a commencé. Et donc, pour pouvoir assurer ce récit, la victime, il faut qu'elle soit là. Mais ces risques de déséquilibre, ils existent très clairement, ils sont maintenant identifiés, on a un petit peu plus de recul. Voilà, c'est la déontologie, l'éthique judiciaire des pratiques professionnelles de chacun, et particulièrement, évidemment, naturellement, d'un président d'audience.
Vous, quand vous avez présidé l'audience pour la catastrophe d'Allinges, Benjamin de Paris, il y avait quoi, 235 parties civiles, ce que vous me disiez tout à l'heure. On rappelle quand même que c'était une catastrophe, un car scolaire et un train, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Millas récemment. 7 collégiens tués, 50 blessés à un passage à niveau.
Chaque affaire est différente, chaque procès est différent. Il dépend évidemment de sa conception, de la qualité de ses acteurs. Et quand je dis ça, c'est de tous ses acteurs. Mais moi, oui, j'ai essayé de prendre toutes ces précautions-là. J'ai fait un planning prévisionnel d'audience où tout le monde était d'accord. Et puis, quand j'ai donné... évidemment, on a consacré 2 journées à entendre des parents... d'enfants qui étaient décédés, c'était des enfants. Alors évidemment, il y a de l'émotion dans le prétoire. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je crois que oui, hein. Paul Ricoeur le dit aussi. Les Américains l'acceptent sans pudeur. Peut-être un peu trop. Voilà. Donc, c'est comme ça que le procès équitable est rétabli. C'est en s'assurant d'un certain nombre de garanties qui rééquilibrent les choses. Et j'avais, par exemple, moi, donné la parole à RFF après 2 journées d'audition de victimes. Je leur avais dit, on vous consacre une demi-journée d'audience. Puis finalement, ils ont utilisé qu'1h30 et ça a suffi.
Merci beaucoup. On repart au standard de France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Marc de Paris est en ligne. Bonsoir Marc, bienvenue sur l'antenne de France Inter, on vous écoute.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voudrais poser une question simple, j'espère qu'elle ne va pas choquer. C'est, la question est, que font les victimes du Bataclan au procès du logeur de Saint-Denis? Parce que les victimes du Bataclan sont victimes des terroristes qui les ont tués. Or, le logeur est intervenu plus tard et n'a eu aucune action directe sur les victimes du Bataclan. Donc c'est, pour moi, ce serait un procès différent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le lien, qu'est-ce qui fait que les victimes du Bataclan puissent être, sa partie civile à ce procès-là?
Eh ben, on va poser la question, Marc, d'autant que vous n'êtes pas tout seul à vous la poser, cette question. Certains auditeurs nous la posent aussi sur franceinter.fr, Charlotte Piret.
Effectivement, cette question se pose. Il faut savoir déjà qu'on a proposé à ces victimes, étant donné qu'il y a eu une disjonction, donc pour parler un peu clairement, c'est-à-dire qu'elles étaient les victimes du 13 novembre, étaient constituées partie civile, et à partir du moment où on a sorti du dossier la partie logement et donc les trois prévenus, dont Jawad Ben Daoud, on a proposé aux victimes, on leur a demandé si elles souhaitaient se constituer. Donc c'est une proposition qui leur a été faite. Et ce qu'on entend, nous, dans les témoignages qu'on a pu recueillir en amont ou pendant le déroulé de l'audience, c'est ce qu'elles disent, elles disent en droit, et celles qui ont souhaité se constituer disent, on a besoin d'avoir toutes les pièces du puzzle, finalement. C'est pour nous, c'est une des étapes de ce processus judiciaire-là, et on souhaite se constituer sur ce procès-là. Évidemment, comme le rappelait Maître Soria, toutes les parties civiles n'ont pas souhaité se constituer. Elles sont 500 environ pour le procès de Jawad Ben Daoud et ses co-prévenus. Elles sont 1500 à peu près dans le procès du 13 novembre. Donc un tiers environ a souhaité se constituer. D'autres ont estimé qu'effectivement ça n'avait rien à faire avec leur histoire, leur propre drame, leur propre tragédie, et qu'elles ne souhaitaient pas être à ce procès-là. Voilà, c'est de la décision purement individuelle en fonction de la manière dont elles se reconstruisent aujourd'hui et dont elles conçoivent leur place de partie civile.
Finalement. C'est peut-être aussi, Maître Soria, le rôle de l'avocat de dire aux parties civiles ce qu'il y a à attendre d'un tel procès.
Alors oui, ça c'est évidemment notre rôle, et on l'a vu dans l'affaire Mera, je pense qu'en effet notre premier rôle c'est de préparer nos clients à l'audience et à ce qui peut se passer pendant l'audience et à la complexité du dossier et à la possibilité...
Il ne faut pas se tromper de procès, quoi. Non, c'est très important.
Mais c'est vraiment ce qu'on fait là. En tous les cas, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a tenu nos clients informés de la raison pour laquelle il est important ou pas de se constituer dans ce dossier. Alors moi c'est compliqué pour moi d'en parler parce que le dossier, l'audience est en cours et je refuse de parler en général de ces questions-là parce qu'il y a des questions sur la recevabilité de la partie civile qui vont être traitées pendant l'audience et vont être plaidées. En revanche, ce que je peux dire, c'est que il nous est apparu important que ce procès puisse se tenir en connaissance de cause de ce qui s'était passé le 13 novembre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons représenté nos clients dans cette procédure, qui sont d'ailleurs peu présents, je veux dire, dans la salle d'audience. C'est pour dire qu'on ne se trompe pas de procès. Nous ne sommes pas dans le procès des attentats du 13 novembre. Nous sommes dans le procès de monsieur Jawad Ben Daoud et de deux autres prévenus. Et ça, je crois que nos clients l'ont bien compris.
Françoise Rudetsky.
Oui, il y a aussi une autre croyance pour certaines parties civiles victimes qu'il faut éclairer ces victimes. C'est que ce soit dans ce pré-procès ou procès des attentats eux-mêmes du 13 novembre, il n'y a rien à gagner financièrement pour une victime. Il y a encore une croyance de la part des victimes que à la clé il y aura une indemnisation. Et même si une cour d'assises décide de verser des sommes au titre de l'indemnisation, les victimes ne toucheront rien. C'est une information qu'il faut donner aux victimes, puisque le fonds de garantie est là pour indemniser les victimes, et que le fonds de garantie est ce qu'on appelle en droit subrogé dans les droits des victimes. Donc, quelles que soient les sommes qui seront allouées, les victimes n'ont pas à attendre d'indemnisation. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette parole qui est importante dans la reconstruction d'une victime. Alors, ça se prépare. Et pendant plus de 20 ans, nous avons organisé des réunions préparatoires pour éviter effectivement les uns qui viennent avec des photos qui tombent dans le pathos, et simplement qu'une victime, d'abord, elle doit s'adresser au président et non à l'accusé. qu'elles expriment leur souffrance, ou peut-être moins leur souffrance, la façon dont elles ont survécu. Et donc ça, je crois que l'avocat a un rôle très important de formation et d'information auprès des parties civiles et des victimes.
Un tout petit mot, puisque vous parliez, Françoise Rudetsky, du fonds de garantie. On ouvre juste une parenthèse, quand même, c'est important de le dire. Suite à tout ce qui s'est passé ces dernières années, ce fonds, il est alimenté par un prélèvement sur les...
Par nous tous.
Les cotisations sur les
assurances. Hein.
Les 5,90 € et nous avons indemnisé 4200 victimes jusqu'aux attentats de 2015. Et on a 6000 dossiers là en instruction au fonds de garantie. Mais on a indemnisé aussi près de 300 000 victimes d'agressions ou de viols avec 5,90 € que nous gérons au sein du conseil d'administration et qui permet à toute victime en France et aux Français à l'étranger d'être indemnisés de façon intégrale de tous leurs préjudices, avec un point d'achoppement qui est l'expertise et l'évaluation.
En tout cas, il y a suffisamment d'argent, c'était ça ma question, dans ce fonds actuellement.
Tout à fait, et s'il fallait augmenter de 5,90 € jusqu'à même, s'il se passait une catastrophe, à 10 €, j'ai toujours dit que j'étais prête à aller expliquer dans les médias à quoi servent les 10 €. Parce que c'est le prix d'un paquet de cigarettes par an et par contrat d'assurance.
Nous repartons au standard de France Inter. Cette fois, c'est Armand qui est en ligne. Armand, bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir.
Bienvenue.
Oui, je vous téléphonais parce que je fais ce métier depuis quelques semaines, puisqu'il n'y a que 42 ans que j'exerce. Et je m'appelle...
Quel métier, Armand ?
Avocat.
D'accord.
Je me dis quand même qu'être partie civile, c'est certainement la chose la plus difficile qui soit pour un avocat. Je ne suis pas très pénaliste, mais j'en ai quand même pas mal fait. Et je dois dire que le fait d'être partie civile, on n'est pas le parquet, on est la défense du bonhomme qui est derrière vous, et je n'ai pas envie d'entendre que les gens qui se constituent partie civile disent « Ah ben oui, mais on voulait qu'il y ait 20 ans de prison au lieu de 3 semaines, etc. » parce que cela ne veut rien dire. Ce n'est pas leur métier. Le métier de l'avocat de la partie civile, c'est de demander effectivement à ce que leur préjudice soit réparé, et puis point barre. Le reste, c'est du ressort parquet.
Je crois que tout le monde ici est à peu près d'accord avec vous, d'après ce qui a été dit depuis le début de cette émission. Merci Armand.
Oui, avec ce que vous disiez, madame, c'est que c'est vrai que, et ça va se faire dans le procès Ben Daoud, la voix de la victime, la parole de la victime, et ça va notamment se poser dans ces procès de masse, c'est-à-dire qu'on ne pourra évidemment pas entendre toutes les victimes. Et d'ailleurs, dans le procès Ben Daoud, nous en avons parlé à nos clients, nous avons demandé qui voulait prendre la parole, qui a besoin de faire entendre sa voix, nous aspirons à ce que nous ayons des témoignages, peu de témoignages, mais des témoignages qui regroupent à peu près l'intégralité des victimes, et que ce soit des victimes directes ou par ricochet, dans ce genre d'attentat. Donc c'est très important, et vous avez raison, madame, de dire que notre rôle en tant qu'avocat, c'est aussi de préparer cette audition de partie civile, qui est, à mon sens, essentielle dans un procès pénal, que ce soit aux assises ou là, devant un tribunal correctionnel.
Et surtout pas réclamer un quantum de la peine,
vous l'avez rappelé. Vous êtes d'accord avec Armand, avocat qui nous a appelé.
Et la plupart des pays sont d'accord, puisque à ma connaissance, il n'y a qu'un seul pays, en tout cas en Europe, qui permet à la partie civile de réclamer une peine différente de celle du procureur. C'est la Finlande. Mais sinon, ça n'existe. Oui, c'est un système qui n'existe dans quasiment aucun pays, la possibilité de réclamer une peine.
Moi, j'ai une question pour ce qui concerne les parties civiles. Donc, est-ce que le fait d'être dans un procès de masse, c'est quelque chose qui va les aider de se dire que y a d'autres gens qui sont dans le même cas? Est-ce que ça peut les porter? Est-ce que ça peut les aider, Françoise Rudetsky?
Oui, parce que il y a quand je reprends les attentats de 86 ou de 80. Il y avait une tentation des victimes de faire deux clans, les blessés et les familles des personnes décédées. Et je leur disais, mais vous avez été victimes tous, ou directement ou indirectement, mais restez unis. Et à l'occasion, outre les réunions qu'on faisait, on préparait, mais à l'occasion du procès, il y avait cette rencontre entre les familles des décédés et les victimes blessées qui avaient un complexe du survivant en disant « mais comment je vais affronter les familles des personnes décédées alors que moi je suis en vie ?» Et là, on a vu une rencontre et on a touché du doigt le fait que toutes ces personnes vivaient un événement dramatique, chacune à leur façon, mais qu'elles avaient un lien commun, c'était l'origine de ce drame.
Et ça participe de la reconstruction, ça,
oui,
Charlotte.
Et de la solidarité.
Je me souviens au procès d'Abdelkader Mera, par exemple, donc qui s'est déroulé il y a peu. Il y a un avocat de partie civile, Maître Tamale, pour ne pas le citer, qui en a même fait un argument de plaidoirie en racontant cette anecdote qu'il avait surprise sur les marches du palais de justice pendant que se déroulait l'audience et où il avait vu deux familles. En l'occurrence, il y avait un jeune musulman, voilà, qui avait raconté sa foi, l'importance de sa foi dans sa reconstruction, et puis il y avait un jeune juif jusqu'à à côté. Et ils étaient en train de discuter tous les deux avec beaucoup d'animation, et cet avocat raconte comment il se rapproche de ces deux jeunes gens et qu'il surprend la conversation et qu'elle portait sur la recette des boulettes. Et il fait de cette anecdote un argument de plaidoirie en racontant mais finalement on a gagné parce qu'à ce moment-là les victimes se sont retrouvées et ont créé quelque chose en commun, et effectivement on a vu ces familles créer un lien extrêmement fort, notamment au procès Mera, mais je pense que c'est vrai dans énormément de procès où les victimes ont vécu un drame commun finalement, même en étant très différentes à la base.
Benjamin de Paris, vous l'avez vu ça, vous aussi ?
Non, mais le procès est un élément parmi d'autres, mais je l'ai vu, oui, concrètement, dans le sens où c'est le procès qui va permettre de fermer une page et d'en ouvrir une autre. Fermer la page de la recherche de la vérité, de l'incompréhension, du pourquoi, du comment, du pourquoi moi. Comme l'a dit très bien Françoise Rudetsky, de la culpabilité, de la comparaison avec d'autres victimes. Oui, moi, c'est le procès qui a permis à une mère de famille de dire devant tout le monde qu'elle avait obligé son enfant à sortir ce jour-là. Voilà, elle portait cette culpabilité et je pense que ce procès...
Le fait d'être à côté d'autres personnes...
Ce procès lui a permis de dire cela et ça lui permettra sans doute à elle ou à d'autres, dans d'autres circonstances, d'ouvrir une seconde page de vie qui... Et souvent, les victimes ensuite font autre chose. Elle passe à autre chose. C'est souvent le procès qui est à césure. On passe à l'action, on passe à l'engagement, on passe certains au pardon, d'autres à l'oubli, d'autres à la mémoire. Et c'est ça le processus de ce qu'on appelle la résilience.
Et c'est pour ça que pour vous, Françoise Rudetsky, ça a été d'autant plus dur que dans votre cas, il n'y a pas eu de procès. Il y a eu un non-lieu pour l'attentat du Grand Véfour. Hein.
J'ai beau être juriste, mais quand vous recevez ce papier non-lieu, c'est non-lieu à instruire, à poursuivre quelqu'un, mais ça veut aussi dire, dans le langage courant, ça n'a pas eu lieu. Et donc, c'est vrai que ça a participé au début de mon combat dans la phase judiciaire. Il y avait l'aspect indemnitaire, mais il y avait l'aspect judiciaire, l'aspect mémoriel. Il y avait différentes phases, la prise en charge donc des victimes au plan psychologique. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais c'est beaucoup de femmes violées vivent ça aussi. Lorsqu'on ne retrouve pas l'auteur d'un viol, c'est très difficile, alors que si une femme est confrontée à son violeur, elle va pouvoir peut-être surmonter l'événement. Moi, je l'ai surmonté en me lançant dans un combat. Donc, c'était une autre forme de résilience.
Effectivement, et vous êtes occupé de beaucoup de monde. Hein. Françoise Rudetsky, on va conclure, allez, 15 secondes chacun, 10 secondes pour dire ce qui, oui, pour vous, est le plus important peut-être aujourd'hui.
Oui, juste pour dire que dès l'arrivée de ces attentats, ils ont eu besoin de se réunir. Il y a eu des associations qui ont été créées. Donc tout ça démarre dès l'arrivée de cet attentat. Et par la suite, je pense que le procès est un point d'orgue. Mais ce n'est pas la seule manière de se reconstruire. Il faut commencer bien avant. Et je pense que... Moi, c'est ce que j'ai conseillé à mes clients.
5 secondes
aider
chacun.
Et de se faire aider.
Oui, c'est pas forcément le point d'orgue. Il y a d'autres points très importants. C'est le retour à l'emploi, par exemple, pour ces jeunes. C'est retrouver une place dans la société. Ça se complète.
Benjamin de Paris, le mot de la fin pour vous aussi, puis après c'est terminé.
Pour l'institution judiciaire, le point central, c'est trouver le point d'équilibre. On a un mouvement mondial d'avènement sur la sphère publique des victimes. Ça se passe en justice, il faut trouver le point d'équilibre.
Un grand merci à vous quatre d'avoir participé à ce Téléphone Sonne et merci à tous ceux qui nous ont appelés et à tous ceux qui ont préparé cette émission. Ils se reconnaîtront 20h sur France Inter.